Sport Hebdo.
Et Sport Hebdo, c'est avec vous Yannick Frossard, avec une grande rétrospective.
Oui, 30 ans de radio, c'est également 30 ans de reportage sportif. Nous avons pu l'évoquer tout au long de la matinée avec beaucoup de souvenirs de nos invités. Nous reviendrons dans ce Sport Hebdo sur les grandes épopées sportives qui ont marqué l'histoire du canton et par conséquent celle de RTN. À mes côtés, pour retracer ces 30 ans de sport radio diffusé, Jacques Cornu, ancien grand champion de moto, quadruple champion suisse, champion du monde d'endurance, trois fois vainqueur d'un grand prix en championnat du monde, mais également un homme fantastique. Nous en parlons dans Sport Hebdo.
Sport Hebdo.
Bonjour Jacques Cornu, bonjour.
Bonjour.
Alors bienvenue dans ce Sport Hebdo spécial 30 ans réalisé en direct de Valangin. On a résumé très brièvement votre palmarès dans l'introduction. Si vous voulez être un peu plus complet, il faudrait encore évoquer une victoire aux 24 heures de Spa, une victoire aux 24 heures du Mans, sans cesse participation à des grands prix de championnat du monde. Trois victoires, on l'a dit, en Autriche, en France et en Belgique, mais aussi 21 podiums, trois pole positions. Et encore là, la liste n'est pas vraiment exhaustive. Ce que je vous propose pour vous replonger un peu dans cette belle époque, c'est d'écouter un son d'archive. L'extrait date de 1988. Vous nous aviez rendu une petite visite au Salon Expo du Port à Neuchâtel. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Claire Chapat vous avait demandé quels étaient vos circuits favoris. Écoutez votre réponse.
Oh, il y a des circuits que j'aime bien, il y a des circuits que j'aime moins bien. Mais parmi les préférés, c'est sûr, il y a Le Mans. Mais c'est marrant parce qu'en général, un circuit que j'aime beaucoup, soit il me porte chance ou il me porte malchance. Le circuit du Mans en est un. Le circuit de Hassen en est un. Soit je fais des très bons résultats, ou alors c'est le contraire, c'est la chute, c'est les fractures. Mais c'est vrai qu'il y a des circuits que j'aime beaucoup, et je crois que Hassen en est un, l'Espagne en est un, et également Le Mans.
Jacques Cornu, 26 ans après, c'est toujours cela vos circuits préférés ?
Oui, parce que depuis 88, il y en a eu d'autres après coup. C'est vrai qu'il y a des circuits où on est toujours bien à l'aise, d'autres un peu moins. Je crois que c'est un peu pour tous les pilotes la même chose. Et les préférés restent souvent, c'est là où on a fait de bons résultats.
Mais qu'est-ce qui fait justement, vous parlez des bons résultats, mais également, je ne sais pas, une sensibilité particulière avec le tracé, avec les trajectoires, peut-être avec le revêtement?
C'est assez particulier parce que là, j'ai été refaire une course de Boldor classique à Spa. Je ne me suis pas senti à l'aise. Mais bon, on a pris quelques années aussi, pas seulement RTN. Et puis, par contre, c'est un circuit où j'ai gagné. C'est le seul circuit où j'ai gagné une fois un Grand Prix et les 24 heures de Spa. Donc, il devait être là. Mais non, alors maintenant, ce n'est pas un circuit... Parce que l'église est un peu près, peut-être justement, certaines choses où on voit la sécurité un petit peu différemment que peut-être quand on est un peu plus jeune, ou voilà, quoi, un peu comme tous.
Un extrait de 1988, on l'a dit, 88, une très belle année pour vous.
Oui, c'est la plus belle année de ma carrière, avec ces deux victoires, surtout les premières victoires en Grand Prix après des années de galère. C'est vrai que c'était une très grande année.
Et on l'a dit, hein, vous avez connu une magnifique carrière. C'est assez paradoxal quand on sait que vous avez acheté votre première moto un peu par hasard. Vous me corrigez si je me trompe, mais à l'époque, vous vouliez vous acheter une voiture et par manque de moyens, vous vous êtes rabattu sur un deux roues. C'est vrai ?
Je sois bref, parce que je sais qu'on n'a que 10 minutes. Parce que si je raconte tout, on y passe la journée. Non, c'est vrai que j'habitais Colombier, je travaillais chez Seine à l'autre bout de la ville de Neuchâtel. Et je faisais les trajets en vélo, parce que le vélo moteur, on me l'avait piqué parce qu'il marchait un peu trop vite. On ne va pas rentrer dans les détails. Et avec un salaire de 120 francs par mois, dont je devais donner la moitié comme pension à la maison, donc 60 francs quand on a 18 ans. Alors, il y avait passé, alors j'allais au camping de Colombier le soir, après une mi-journée d'apprentissage, faire la plonge jusqu'à minuit, samedi, dimanche, et j'avais pu économiser 900 francs. Et je voulais acheter une voiture, et puis tout était trop cher, une vieille de chevaux pour la retaper, vu que j'étais apprenti mécanicien auto. Et je me suis dit, ben voilà, non, il n'y a pas les moyens. Alors j'ai acheté une moto uniquement par manque de moyens quand j'avais 18 ans. Mais je ne pensais pas que ça allait amener après à une passion.
Et justement, alors cette passion, ce virus de la course, comment il est venu ? Parce qu'on, enfin, de motard à coureur motocycliste, il y a quand même un pas que vous avez franchi, vous. Qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi ce pas ?
C'est aussi le hasard, puisque dans l'équipe qu'on roulait, et il faut le dire, à cette époque, c'était il y a quelques années, il n'y avait pas de limitation de vitesse en dehors des localités. Et il y avait, dans l'équipe qu'on était, il y avait un ami qui voulait faire sa licence. Et une fois, je me dis, tiens, on va se retrouver une fois pour voir un peu comment on roule. Et le hasard a voulu qu'on se retrouve à Yverdon. Lui, il n'avait personne, moi, j'avais personne. Puis on a décidé de passer par Sainte-Croix. Et Je ne dis pas qu'on a pris la route pour la course, mais c'était un peu ça. C'était le premier à Sainte-Croix, puis j'étais en haut, je l'attendais, puis il arrivait près d'une minute après. Puis du coup, je me suis dit, bah, attends, mais s'il veut faire sa licence, pourquoi moi je ne le ferais pas? Et c'est vrai que c'est comme ça que c'est parti.
Alors, on l'a dit, hein, en fin des années 70, vous remportez plusieurs titres de champion suisse, tant en 250 qu'en 350 qu'en 500 cm3. En 1980, vous débutez au championnat du monde. RTN a vu le jour en 84. La radio s'est logiquement directement intéressée à vos performances. Quels étaient vos liens avec RTN durant votre carrière?
Bien, c'est sûr que c'est, moi je me rappelle, c'était la naissance un peu de toutes les radios privées à gauche à droite. Et j'y croyais pas vraiment. Et puis les premiers contacts que j'avais eus avec RTN, pour moi c'était une petite équipe de bricoleurs dans un coin, je m'excuse. Et puis non, ça fait plaisir de voir que 30 ans après vous êtes toujours là et puis que ça a pris de l'ampleur et puis que ça existe toujours et puis c'est bien sympa.
Alors, vous parlez d'une petite équipe de bricoleurs dans un coin. Vous m'excuserez peut-être, mais c'était un peu votre cas également à vos débuts en championnat du monde. En tout cas, vous aviez des moyens relativement limités. Comment viviez-vous sur les circuits?
Oh, bah, chose pas racontée. Hein, j'allais dans mes premières courses. J'avais une vieille moto qui n'était pas dans le coup, mais je mettais tout dans une R4, une R4 normale, le mécanicien, la moto, tout. Puis on partait aux courses comme ça, mais au championnat suisse, ça allait. Mais j'ai été en Finlande, par manque de moyens aussi, ou dans une DS tout à fait normale. Je suis parti, le mécanicien, la moto, tout démonté, enlever les sièges pour mettre tout dedans pour aller courir en Finlande, parce que le ferry, le voyage, l'essence et tout coûtait moins cher. Et puis voilà, par manque de moyens, il fallait se débrouiller pour essayer de survivre dans ce milieu où il y avait déjà des sponsors, mais voilà, qui étaient toujours réservés aux autres.
Et vous participiez d'ailleurs autant en 250 qu'en 350 cm3, justement par suite à un calcul financier.
Oui. Oui, effectivement, le fait de courir dans deux catégories, on avait quelques petites primes de départ qui couvraient juste, il ne fallait pas tomber parce que ça coûtait trop cher, qui couvraient les frais de ces déplacements. Et plus tard, il est venu justement, la chance a voulu que j'obtienne un guidon de pilote d'usine en endurance avec Kawasaki, ce qui m'a permis de gagner un peu d'argent là, mais que j'investissais tout pour continuer à faire des grands pipes. C'était avant tout ça ma passion.
Et on l'a dit, hein, RTN est apparu en 1984, c'était à peu près le milieu de votre carrière, en tout cas votre carrière en championnat du monde. Est-ce que l'arrivée de la radio neuchâteloise a changé quelque chose dans votre carrière?
Je pense au niveau local, oui. Parce qu'évidemment, à un moment donné, les médias, c'est plus grand, c'est la Suisse, la chance de parler aussi l'allemand, du coup, voilà, Suisse, voire international. Alors les sponsors, à la suite, c'est aussi des sponsors qui font leur publicité au niveau international. Donc, mais c'est sûr qu'au niveau de l'image sur Neuchâtel, oui, ça a changé quelque chose.
Alors Jacques Cornu, restez avec moi. Dans la seconde partie de ce Sport Hebdo, nous reviendrons sur d'autres sportifs qui ont marqué ces 30 dernières années, qui vous ont certainement marqué également. Mais avant cela, je vous propose de faire une petite pause musicale.
Sport Hebdo.
De retour dans ce Sport Hebdo spécial 30 ans, en direct donc de Valangin. Nous sommes là, hein, au pied du château avec vous, Jacques Cornu. Jacques Cornu, la moto, c'est de la vitesse, de l'adrénaline, cette recherche de la trajectoire parfaite, des éléments qu'on le retrouve également dans d'autres disciplines. Citons au hasard le ski alpin. Jacques Cornu, vous skiez?
Oui, mais très peu, parce que je n'osais pas trop, surtout pas me casser.
Alors vous l'avez peut-être sans doute compris, hein, derrière cette question un peu hors sujet, je veux introduire un autre grand champion, Didier Cuche. Didier, un autre grand sportif neuchâtelois qui a marqué les 30 premières années de RTN par son palmarès, par la longévité de sa carrière et aussi par l'élan de sympathie qu'il a provoqué dans tout le pays. Didier Cuche, ce petit gars des Bugnonnais, devenu le plus grand descendeur de la planète, 5 fois vainqueur, c'est un record de la descente de Kitzbühel. En 1998, il devenait vice-champion olympique de Super G à Nagano. Compte tenu du décalage horaire, ses supporters ont suivi la course au milieu de la nuit. Sa maman était bien sûr derrière la télé. Ambiance.
C'est vraiment phénoménal, comme dit son fans club. Non, mais c'est merveilleux, c'est vrai. On oublie même les nuits blanches pour rien. Je pense qu'il avait quand même un peu de rage au ventre ce soir. Hein? C'est le papa qui dit qu'il se sent drôlement bien pour une magnifique course comme ça, couché sur le canapé du salon. C'est génial.
C'est vrai que les résultats à Didier, on n'attendait vraiment pas. J'étais à Kitzbühel dans l'air d'arrivée lors de la descente sprint. Il arrive à la deuxième manche, il gagne. Et puis, on pleurait tous comme des petits-enfants, quoi, tellement on était émus. Je dirais que ça montre vraiment l'état d'esprit à Didier. Il a travaillé comme un forcené tout l'été. la musculation, des stages à Macolin, et puis c'est le fruit de ce travail qui est ressorti maintenant cet hiver.
Pierre Ducombe, quel type d'élève, quel type de skieur était-il lorsqu'il était gamin? Est-ce que déjà il se démarquait des autres par quelques traits de caractère peut-être?
Oui, il avait déjà une grande différence avec les autres, il savait où il voulait aller, et il savait ce qu'il faisait, il ne fallait surtout pas le contredire. Je me rappelle à une certaine course, on avait fini de reconnaître le parcours, on a fait une descente jusqu'au village, et il est parti tout droit, sans connaître la piste, sans rien. Quand j'en ai arrivé en bas, j'ai dit que c'était pas malin, les sécurités, il m'a répondu, on n'a personne touché, on risquait rien du tout, et puis on peut recommencer.
Il y a tout le moment présent qui défile, et puis après il y a les images des moments où ça a bien allé, où c'est mal allé. Celle où c'est mal allé, c'est juste un petit flash comme ça. On a plus les moments où ça va bien, peut-être des petites pensées qui partent pour la Suisse, pour les gens que j'apprécie bien.
Ce matin, vous avez déclaré, j'y croirai lorsque je recevrai la médaille. Maintenant, vous l'avez, la médaille.
Maintenant, je l'ai, mais j'y crois encore pas trop, quoi. Non, elle est là, elle est bien lourde, elle me fait un peu plier le cou. C'est des sensations qui sont, je crois, inexplicables. Là, sur le podium, j'avais les jambes qui tremblaient. Dans un sens, c'est magnifique, mais dans un autre sens, c'est frustrant de savoir comment on peut perdre les pédales.
Il faut se rendre compte que c'est la première médaille olympique que nous obtenons dans le canton. Donc, vous pensez bien qu'on est prêt à faire une fête pour recevoir ce jeune champion. Le Conseil d'État sera présent. Le Conseil d'État est fier d'avoir un ambassadeur sportif de cette nature. Et nous tenons à le féliciter.
Vive les Bugnanais! Vive le Val-de-Ru! Ouais! Vive le Fans! Et surtout, vive!
Vive!
Je dois dire que je ne pensais pas attendre autant de monde ici. Comme Françoise l'a dit, j'ai aussi les jambes qui tremblent. J'ai la voix qui est un peu rauque hier soir. Elle est un peu émue. Et je vous remercie tous d'être là. Et puis je vais encore réfléchir pour trouver d'autres mots parce que là, il y a tout qui se mélange.
Jacques Cornu, des souvenirs, des émotions peut-être également. Qu'est-ce que vous inspire la carrière, une carrière menée comme ça par Didier Cuche?
C'est tout simplement fantastique. C'est des ambassadeurs du sport tels que Federer. Et surtout des gens qui restent humbles, des gens qui sont près de leur fans club, près de leurs gens, et puis qui sont appréciés. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment appréciable, et c'est pour moi un très très grand bonhomme.
Pour nous aussi. Quittons peut-être le cirque blanc, si vous le voulez bien, pour revenir un peu dans la région, sur les pelouses de notre région. En 1988, on l'a dit, c'était une année fantastique pour vous, mais pour le sport neuchâtelois en général, puisque Neuchâtel-Xamax fêtait alors son deuxième et dernier, pour le moment, titre de champion suisse. Jacques Cornu, on a discuté un peu avant, vous alliez de temps en temps au match, vous?
Oui, très peu. C'est vrai que quand on est engagé dans un sport, on n'est pas seulement à moitié, on est engagé à 120%. Donc il me restait très peu de temps pour aller voir des matchs. Mais il me reste de bons souvenirs tels que le coup d'envoi, je crois, contre le Real Madrid. Ou Barcelone, voilà, je me serais même oublié avec les
peut-être
années.
Peut-être Real Madrid,
voilà,
plutôt.
Voilà.
Coup d'envoi que vous
Madrid,
avez donné,
voilà,
vous-même,
oui.
Au stade de la Maladière.
Oui, et puis des gens comme M. Facchinetti que j'ai croisé à travers ma carrière, qui sont aussi de très très grands monsieur.
De grands monsieur, car 30 ans de radio, c'est aussi 30 ans de l'épopée Neuchâtel-Xamax. RTN a diffusé en direct toutes les rencontres de Ligue Nationale et tous les matchs européens des Rouges et Noirs. Des voix qui resteront, Gilbert Grèce, Gilbert Facchinetti, Willy Stiliquet et bien d'autres encore. Jacques Cornu, si je vous dis le 24 mai 2004, vous me répondez?
J'ai eu les questions avant, mais je sais. C'était le dernier match de Xamax, c'est ça?
Exactement, le dernier match de Xamax dans l'ancienne Maladière avant sa destruction et sa reconstruction. Vous y étiez à ce match?
Non.
Non. Alors, RTN y était, et c'est justement sur cet événement empli de nostalgie que s'ouvre ce second module préparé par Marcel Neuenschwander. Écoutons.
C'est quoi ce bruit?
C'est le dernier hamburger du stade La Maladière.
Mathias, là on est sur la tribune sud dans le club des Fanatics. La Maladière, pour vous, ça a commencé quand?
Ouh, ça a commencé dans les années, je dirais, 88, je crois, quelque chose comme ça. J'étais tout petit, j'avais pas encore compris ce que c'était le titre à l'époque.
Ça fait bizarre de se dire que c'est le dernier match ici, officiel.
Ouais, bah disons que ouais, ça fait assez bizarre, surtout de se retrouver ici et pas au pelouse. C'était notre endroit avant. Ça va faire un petit pincement au cœur quand on verra qu'il y a tout qui sera détruit. Mais pour l'ouverture, on sera là et... et ça va, on va pouvoir reconstruire des belles choses pour le nouveau stade.
Josiane et Marie-Josée, nous sommes là au pied de la tribune nord avant ce dernier match dans ce vieux stade de la Maladière. Marie-Josée, quel est l'état de votre cœur en ce moment?
Alors mon cœur bat très très fort. Comme je le dis souvent, quand je viens à la Maladière, j'ai le neuneu.
Vous n'êtes pas nostalgique?
Non, mais je pense emporter un petit bout de terrain, si c'est possible, et le planter chez moi. Puis je ferai une petite Maladière chez moi.
André Calam, on est où ici? On est un peu dans un no man's land.
Oui, alors c'est déjà des ruines parce que le Café des Amis s'est terminé, mais ils ont ouvert aujourd'hui pour quand même qu'on puisse boire un verre avant le match.
Match spécial.
Alors la plus grande émotion, c'était peut-être Hambourg et Bayern Munich.
On joue depuis exactement 42 minutes et 12 secondes, alors que Neuchâtel-Saint-Max, pour l'instant, fait match nul 0-0. Et le public est debout. Le public rouge et noir est debout. Avec un dégagement de Kaltavridis. Attention maintenant, une tête de Wolfhard. Un tir et goal. Et c'est un tir de Flugler. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il restait 3 minutes à 4 minutes avant chrono. C'est la 43e minute. Et sauf erreur, c'est Flugler. D'une reprise. Alors qu'il bat imparablement le gardien Cormain-Boeuf. Ah, c'est regrettable, là. C'est regrettable.
Ça fait surtout plaisir de retrouver les gars avec qui j'ai travaillé, comme Philippe Perret, comme Robert Lutti, comme beaucoup d'autres, Joël Cormain-Boeuf. On a travaillé pendant des années ensemble. Et j'ai eu la chance, je peux appeler ça la chance, d'avoir affaire à des garçons qui étaient des vrais, des hommes avec un grand H, des gars intelligents, professionnels, et avec qui on pouvait travailler.
Une question peut-être technique, Gilbert Graisse, vous qui étiez un puriste du football, la pelouse synthétique, pour ou contre?
Non, mais contre à 200%. Nous sommes en l'an 2007, on voyage dans la Lune, et puis on n'est pas capable de mettre un gazon naturel, quoi. Alors, je sais qu'il y a eu un sondage qui a été effectué en France il y a quelques mois, et je crois, si je ne me trompe pas, que plus de 80% des joueurs étaient contre.
Neuchâtel-Saint-Max avait la possibilité de faire un exploit ici, tous les dirigeants sont debout. Et Bayern Munich peut marquer le deuxième but. Ah, c'est dommage.
Pour le moment, on est 0-0. Et puis si c'est possible, eh bien on va tout faire pour secouer la vie Auxerre.
Vous la connaissez bien, cette équipe d'Auxerre?
Oui, on la connaît bien, puisqu'on avait même un rendez-vous fixé, un match amical pour le 6 septembre, qu'on annule, bien entendu.
Le bilan était vite fait, avec une phrase. Le but spécifique que nous on avait pour ce premier tour, de se qualifier sans passer des graves ou des grands problèmes. Ça, malheureusement, on n'a pas réussi parce qu'on était jusqu'au dernier moment condamné pour cette lutte de là-bas.
Je suis dans le football, une pression trop grande pour ce garçon. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ma famille à Toulon, ma belle-fille, ma femme, mes petits-enfants, vibrent autant que nous, plus même, puisqu'ils ne sont pas sur le terrain. J'ai une pensée pour eux, j'ai une pensée pour tout le travail qui a été fait. Voilà, monsieur, excusez-moi, votre vision est trop forte.
La conclusion qui revenait au père de René Lobello, hein, l'entraîneur qui a sauvé Neuchâtel-Xamax de la relégation en Ligue B au terme d'un barrage mémorable. Avadout, ses conclusions pour nous également, puisque ce Sport Hebdo touche gentiment à son terme, enfin même plus que gentiment, il touche à son terme. Merci Jacques Cornu pour votre présence, pour tous ces souvenirs également évoqués à notre antenne.
Merci bien, et puis que RTN vive encore longtemps.
Merci beaucoup, et plus qu'à vous souhaiter à tous nos auditeurs une belle journée à l'écoute des programmes de RTN.